À l'écoute de RFI, 20h, 21h ici à Paris, 19h en temps universel. Et dans 10 minutes, mardi politique avec Yann Brossa, sénateur communiste de Paris, candidat aux élections municipales de 2026. Mais pour l'heure, c'est le journal d'Adrien Delgrange. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. Et au sommaire de cette édition internationale, c'est désormais officiel. L'alternance politique est en marche en Corée du Sud. La page Yoon Suk-yeol est tournée. L'élection de l'opposant politique Lee Jae-myung vient d'être confirmée. L'actualité en Europe, aux Pays-Bas, où le premier ministre d'extrême droite Geert Wilders provoque la chute de son gouvernement. Décision incompréhensible pour l'analyste que vous entendrez tout à l'heure. Cette nouvelle attaque israélienne sur des Gazaouis aujourd'hui qui a fait au moins 27 morts. L'ONU qualifie cette attaque de crime de guerre. Et puis enfin en France, retour sur la mort de Naël. Le policier auteur du tir sur le jeune homme sera jugé pour meurtre l'année prochaine. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. La Corée du Sud a donc de nouveau un président après 6 mois de chaos politique. Pierre-Olivier, bonsoir.
Bonsoir.
Ce soir, c'est le dirigeant du parti de centre-gauche, Lee Jae-myung, qui a été élu avec 49,2% des suffrages contre 41,5% pour son concurrent conservateur.
Oui, un écart conséquent, conformément à ce qui avait été prédit lors du dernier sondage de l'Institut Gallup avant l'élection. Écart de près de 8 points donc entre les deux candidats avec une participation de près de 80%. Il y a quelques minutes, le président élu, Lee Jae-myung, a d'ailleurs prôné l'unité dans ses premiers mots. Je cite « Aujourd'hui, nous sommes tous le même peuple fier de cette grande nation, marchons ensemble ». De son côté, son rival a déclaré reconnaître humblement le choix du peuple. Pour le peuple, justement, il s'agit là d'un vrai soulagement. Cette élection vient clore 6 mois de chaos politique et de succession de dirigeants par intérim. Après la tentative ratée du président conservateur Yoon Suk-yeol d'instaurer la loi martiale, un tollé qui a visiblement donné du souffle aux candidats démocrates désormais élus. Ironie de l'histoire, il y a 3 ans, lors de la dernière présidentielle, le gagnant d'aujourd'hui, Lee Jae-myung, avait perdu contre Yoon Suk-yeol. Les Sud-Coréens avaient alors sanctionné les nombreuses poursuites judiciaires, notamment pour corruption du candidat démocrate. Reste à savoir si maintenant son accession à la présidence permettra d'apaiser la vie politique du pays.
Les précisions de Pierre-Olivier en direct dans cette édition internationale. Après avoir critiqué à distance l'OTAN, cette fois-ci le président américain viendra formuler ses recommandations en présentiel au siège de l'Alliance Atlantique aux Pays-Bas. Donald Trump se rendra au sommet de l'OTAN prévu les 24 et 25 juin à La Haye. C'est ce que vient d'annoncer la Maison-Blanche. Le président américain n'a de cesse depuis son retour au pouvoir de demander notamment aux membres de l'OTAN d'augmenter de manière très importante leurs dépenses militaires. L'Ukraine revendique une attaque à l'explosif contre le pont de Crimée, également appelé pont de Kerch. L'ouvrage a été construit par la Russie entre son territoire et la Crimée, Crimée annexée en 2014 par les Russes. Aujourd'hui, Moscou accuse Kiev d'être à l'origine d'explosions ferroviaires sur ce pont qui aurait tué 7 personnes. Ce week-end, c'est une autre attaque de grande ampleur qui a touché des avions russes et qui a marqué les esprits. Alors cette question, quel impact ces frappes peuvent-elles avoir sur la Russie? Élément de réponse avec Ulrich Bouna, chercheur associé à Eurocréative, spécialisé dans l'Europe centrale et orientale.
Les frappes sur les voies ferrées, elles ont un impact militaire assez direct dans le sens où elles gênent en fait la capacité des forces russes à déplacer des hommes et des munitions et des équipements au plus près de la ligne de front, près de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Pour les autres, je pense qu'on est plus dans l'ordre du symbole. On voit bien que Vladimir Poutine essaye, dans ce tempo diplomatique imposé par les Américains, où il y a une volonté d'essayer d'avancer vers quelque chose, les Russes essayent de mettre la pression sur les Ukrainiens en bombardant les civils. Et finalement, on a un petit peu l'impression que l'Ukraine essaie de répondre de son côté en visant des cibles assez symboliquement importantes pour Vladimir Poutine, en essayant de lui faire comprendre peut-être que s'entêter à vouloir imposer une capitulation à l'Ukraine, c'est prendre le risque d'être déstabilisé en interne. Donc je pense que voilà, tout ça s'inscrit véritablement dans ce tempo diplomatique où finalement l'un essaie de mettre la pression sur l'autre pour le forcer à faire des concessions, puisque finalement ça reflète aussi que sur le terrain militaire, l'un comme l'autre n'arrive pas à faire la décision, même si la Russie avance péniblement.
L'historien Ulrich Bouna au téléphone avec Muriel Paradon, RFI à Paris, 21h05. Aux Pays-Bas, le gouvernement néerlandais est désormais chargé, comme on le dit, des affaires courantes. Autrement dit, l'un des partis de la coalition au pouvoir a claqué la porte dans la journée. Le parti de Geert Wilders a décidé de quitter le gouvernement. Le PVV, la formation xénophobe et nationaliste, réclamait l'adoption d'un plan drastique contre les demandeurs d'asile sans être suivi par sa coalition. Ce départ ouvre la voie à de nouvelles élections dans les prochains mois aux Pays-Bas. Tom van der Meer est professeur de sciences politiques à Amsterdam. Il ne comprend pas la stratégie de Geert Wilders et estime qu'il compromet ses chances de revenir au pouvoir.
Il est très doué pour le court terme et ça semble le motiver. Les sondages montrent clairement qu'il perdait en popularité. Mais ce qu'il espère gagner à long terme reste flou. La dernière fois, il a gagné uniquement parce que le thème principal des élections était l'immigration. Il a brisé la coalition sur ce thème parce qu'il pense que les prochaines élections porteront sur ce sujet. Mais aux Pays-Bas, même quand vous êtes le plus grand parti après les élections, l'accès au gouvernement n'est pas garanti. Aujourd'hui même, il a pratiquement détruit ses relations avec certains de ses partenaires les plus proches. Il a sabordé ses relations avec eux. Après les prochaines élections, qui serait prêt à gouverner avec lui si pour la deuxième fois consécutive, il devait participer au gouvernement avec le risque qu'il laisse tomber ses partenaires de coalition ?
Des propos recueillis par Julien Chavannes. Venons-en à cette évasion rocambolesque au Pakistan. Plus de 200 détenus d'une prison de Karachi ont profité de secousses sismiques pour s'échapper. Le tremblement de terre a créé un mouvement de panique dans la prison, ce qui aurait permis aux détenus de se faire la belle. Sur les 200 prisonniers évadés, 129 sont toujours en fuite, annoncent les autorités. Dans l'actualité française, 2 ans après la mort à Nanterre du jeune Naël, point de départ d'une semaine d'émeute à travers le pays, 2 juges d'instruction ont décidé d'ordonner que le policier auteur du tir qui a tué l'adolescent le 27 juin 2023 soit jugé aux assises pour meurtre. Le procès devrait avoir lieu dans le courant de l'année 2026. Parlons sport et filons aux internationaux de France de tennis. Parlons de la terre battue de Roland-Garros, mais pas que. Plus précisément de tout d'abord la Biélorusse, Arina Sabalenka, numéro 1 mondial, qui s'est qualifiée aujourd'hui pour les demi-finales, tout comme Iga Swiatek, la Polonaise tenante du titre. Chez les hommes, l'Italien Musetti, premier qualifié pour les demi-finales. Frédéric Suto, bonsoir.
Oui, bonsoir Adrien.
Le dernier match du jour, en ce moment, sur le central, quart de finale, qui oppose Carlos Alcaraz à l'Américain Tommy Paul.
Oui, c'est une masterclass pour l'instant signée Carlos Alcaraz, 6-0 dans la première manche face à Tommy Paul. Il a donné le ton dès les premiers échanges. Le tenant du titre, l'Espagnol Carlos Alcaraz, il a gagné les 5 premiers points du match en mettant une intensité incroyable dans ses frappes. Très peu de déchets ce soir dans le jeu de l'Espagnol. Et pour l'instant, Tommy Paul est complètement dépassé par ce qui se passe là sous ses yeux depuis le début du tournoi. Pourtant, Carlos Alcaraz s'était montré, non pas en demi-teinte, mais sur courant alternatif lors des 3 derniers matchs. Il a perdu une manche. C'était pas si simple que ça, mais il monte en puissance. Le tenant du titre, vainqueur cette année quand même de Monte Carlo, de Rome, la terre battue, c'est là où il se sent le mieux, Carlos Alcaraz. Alors, le spectacle n'est pas complètement au rendez-vous. Tommy Paul, il avait gagné quand même en 2015 le tournoi junior ici de Roland-Garros. Il serait bon pour lui de s'en souvenir car les spectateurs là commencent un petit peu à s'impatienter. Il serait temps qu'il marque son premier jeu. En tout cas, le vainqueur retrouvera en demi-finale, vous l'avez dit, Lorenzo Musetti, l'Italien qui s'est qualifié un peu plus tôt dans la journée.
Frédéric Suto en direct de Roland-Garros. Nous vous retrouvons dans nos prochaines éditions pour nous faire vivre ce quart de finale à Roland-Garros. Et puis enfin, Il fait sûrement les frais de la défaite de son équipe samedi soir contre le Paris Saint-Germain, battu 5-0 en finale de la Ligue des Champions. Simone Inzaghi dit au revoir à l'Inter Milan. Le désormais ex-entraîneur a décidé de quitter son poste, annoncé dans la soirée le club italien. Des infos à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site internet rfi.fr. Mais pour l'heure, mardi politique, Yann Brossat est notre invité. Bonne soirée.